France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, les martyrs du métro Charonne. 17 octobre 61, date tragique, celle du massacre des Algériens à Paris. Plus de 200 morts, des corps jetés dans la Seine par dizaines. Une abjecte barbarie policière. Sinistre événement, connu de tous. Mais qui se souvient d'un autre drame, lui aussi commis en plein Paris, toujours sous les couleurs bleu marine, 4 mois plus tard. Le 8 février 1962, des partis politiques et des syndicats appellent à manifester contre l'OAS. L'organisation terroriste multiplie les attentats à Alger comme à Paris. Alors il faut réagir. Un rassemblement est prévu à la Bastille en fin de journée. Mais le pouvoir gaulliste ne l'entend pas de cette oreille. Et, circonstance aggravante, le préfet de Paris, c'est Maurice Papon, l'homme des mauvais coups. Sous ses ordres, la répression est d'une violence inouïe. Et c'est un matraquage en règle, notamment à l'entrée du métro Charonne, où les gens sont poussés par des policiers enragés. Pas tous, vous l'entendrez, non, une brigade spéciale. Au bout du compte, 9 manifestants sont tués. La France est en émoi. Ces 9-là seront des martyrs. Mais le gouvernement fait tout pour étouffer l'affaire. Des preuves sont effacées, la justice est neutralisée et pendant des années, une chape de plomb s'abat sur ce crime d'État. Notre invité aujourd'hui, Alain Ruscio, historien, spécialiste de la guerre d'Indochine mais aussi de la guerre d'Algérie. Il a notamment publié à la découverte Nostalgérie, l'interminable histoire de l'OAS et plus récemment, La première guerre d'Algérie, une histoire de conquête et de résistance. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Rémi Carayol, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation François Audouin.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Février 1962, la France est un pays sous très haute tension. La guerre d'Algérie a traversé la mer Méditerranée. Les morts désormais se comptent aussi dans ce qu'on appelle encore la métropole. Il y a 10 mois, en avril 61, le putsch des généraux Salan, Jouot, Chasles et Zeller a fait long feu. Le premier coup d'État en live, pourrait-on dire aujourd'hui, filmé et retransmis en direct à la télé, la RTF d'Alger.
Le calme d'Alger était trompeur. Soudainement, Alger a basculé dans un drame qui agite aujourd'hui la France et au-delà des frontières, le monde attaché à la solution du problème algérien mis en route par le général de Gaulle. Les Français ont soudain découvert le gouffre où risquait de s'enliser le pays lorsqu'à l'Élysée, à la sortie d'un conseil des ministres convoqué d'urgence, la nouvelle fut annoncée et que le ministre de l'Information, M. Louis Ternoir, déclara aux journalistes «
Il a été décidé de déférer à la justice militaire les généraux Chasles, Salan, Jouot et Zeller, ainsi que le colonel Godard. »
C'est un échec. 2 jours après, de Gaulle dénonce ses hommes dont, je cite, « c'était le devoir, l'honneur, la raison d'être de servir et d'obéir. » Hélas, ajoute-t-il, 3 fois hélas. Mais les plus radicaux des partisans de l'Algérie française n'ont pas dit leur dernier mot. L'OAS, l'organisation armée secrète, a pris la relève. À sa tête, le général Raoul Salan, encore lui. Il est hors de question, jure-t-il, de lâcher l'Algérie. En novembre 61, il s'exprime depuis Madrid, dans l'Espagne franquiste et donc fasciste, où pas dépaysé, il s'est réfugié.
L'OAS, organisation de l'armée secrète qui a maintenant ses 8 mois d'existence, a essentiellement pour but de maintenir l'intégrité du territoire national. L'Algérie en fait partie intégrante. Cela ne peut être discuté. Il n'y a qu'à reprendre nos petits manuels d'histoire et de géographie et nous y voyons marqués les départements français de l'Algérie. Et c'est pour cela que l'OAS s'est constitué, pour que l'Algérie reste au sein du territoire national et que l'unité territoriale de la patrie ne soit pas coupée.
C'est le temps de la terreur, plastiquage, assassinat ciblé. À Alger, comme à Paris, les commandos Delta de l'OAS exécutent froidement les partisans de la négociation, mais aussi les officiers fidèles à De Gaulle, des policiers aussi, et parfois de simples citoyens. Et bien sûr, ceux qu'on appelle à l'époque les Français musulmans, les Algériens notamment, ceux qui sont venus dans l'Hexagone pour y travailler. C'est d'ailleurs en réaction à cette menace que la Fédération de France du FLN, le Front de Libération Nationale, appelle à manifester le 17 octobre 61. Pour dire stop, donc, mais aussi pour appuyer les pourparlers entre le gouvernement français et le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne. Et surtout, pour dénoncer le couvre-feu que le préfet de police de Paris, Maurice Papon, dont la simple citation du nom fait frémir, impose aux seuls maghrébins. Oui, couvre-feu seulement pour eux, français de seconde catégorie, dans l'esprit du premier flic de Paris. Ce jour-là, c'est un mardi, malgré la pluie évidemment, des milliers d'Algériens endimanchés se regroupent en fin d'après-midi. Ils sont à l'Étoile, à l'Opéra, à la Concorde. À 20h, ils devraient tous être chez eux, en vertu du couvre-feu. Mais ils sont là, dehors, dans les rues, au vu de tous. Ils sont près de 30 000 à défiler dans les rues de Paris et à braver l'interdit. L'affront est intolérable, il se paiera très cher. Parmi eux, Khaled Ben Aïssa. Il est venu de Nanterre avec son père, ses frères et ses oncles. 60 ans après, il en garde un souvenir encore vivace au micro de RFI.
Là, il y avait juste au bout, ils avaient la garde mobile et avaient complètement fermé le passage du pont. Certains avaient des mitrailleuses avec un trépied posé par terre. C'est le souvenir que j'ai lorsque toutes les premières rangées sont tombées à la suite des balles déjà premièrement tirées. Ils essayaient de courir pour me cacher. Il faisait nuit sombre et là j'ai trébuché. Je pensais que c'était le trottoir, et en fin de compte c'était des corps et d'autres corps me sont tombés dessus. Je ne pouvais plus me dégager, je commençais à perdre ma respiration, je suffoquais et j'ai cru que mon heure est arrivée.
La répression est brutale, massive. Les manifestants sont matraqués, frappés à coups de bâton, de crosse de fusil. Et certains sont abattus à l'arme à feu avant d'être jetés dans la Seine. Les noyés par balles, dira-t-on plus tard. Dans la cour de la préfecture de police, là où se trouve Maurice Papon, ils sont lynchés, puis exécutés. Le lendemain, la presse aux ordres évoque deux morts parmi, je cite, les musulmans. Et un troisième, un Européen, qui s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Ben voyons. Les jours suivants, on repêche les cadavres d'Algériens par dizaines. Il faudra attendre des années et le travail de fourmi de l'historien Jean-Luc Enaudi pour établir un bilan approximatif d'environ 200 morts, peut-être plus. Deux mois plus tard, le 19 décembre, bis repetita, nouvelle manifestation anti-OS autour de la Bastille, nouvelle répression. À une différence près, et elle est de taille. Cette fois, ce sont des Français de l'Hexagone qui descendent dans la rue à l'appel des syndicats et des partis politiques, le Parti communiste et le PSU notamment. Sur la RTF, on suit tout cela en direct.
Docteur Pena, vous êtes resté en communication avec l'extérieur pour avoir des nouvelles de la manifestation. Où en est-on maintenant?
Eh bien, très peu de choses par rapport à ce que nous venons de dire. Simplement, dans le quartier de la place de la Bastille, les heurts entre manifestants et barrages de police se poursuivent. Heurts violents également à la rue de Saint-Paul. Et les manifestants continuent à aller et venir au cri de OAS assassin et de paix en Algérie.
Combien sont-ils dans la rue ce soir-là? 15 000 selon la préfecture, 100 000 selon les organisateurs et selon cette comptabilité absurde où les deux sources mentent. Elle existe déjà à l'époque et elle existe aujourd'hui, une calamité. Qu'à cela ne tienne, quels que soient les chiffres, la démonstration en impose. La répression aussi, hélas. On compte des dizaines de blessés, peut-être 200 à 250. Des élus sont frappés, des femmes aussi, et des passants, qui n'avaient rien à voir avec la manifestation, y passent également. Parfois à terre, souvent à la tête. Cette fois, il n'y a pas de coup de feu, pas de mort non plus. Mais les policiers s'en donnent à cœur joie au cours de ce que l'historien Alain de Verpe qualifie de répétition générale du 8 février. Justement, on y arrive. En ce début d'année 62, les attentats de l'OAS se multiplient. Des vagues d'explosions dans toute l'Algérie, mais aussi à Paris. On appelle ça les nuits bleues. Le 18 janvier, 18 bombes explosent aux quatre coins de la capitale. Le 22, une charge déposée au ministère des Affaires étrangères tue une personne et en blesse 12 autres. Le message est clair, l'OAS frappe quand elle veut, où elle veut. Le 7 février, ce ne sont pas moins de 10 charges de plastique qui explosent dans la capitale entre 13h et 23h. Parmi les cibles de l'organisation terroriste, des professeurs de droit, des journalistes, un sénateur communiste, Raymond Guyot, et André Malraux lui-même. L'écrivain est alors ministre des Affaires culturelles. Il habite au premier étage d'un hôtel particulier, à Boulogne-Billancourt, au 19 avenue Victor Hugo. Mais les plastiqueurs l'ignorent. Ils déposent leur charge au rez-de-chaussée, sur le rebord d'une fenêtre. Quand elle explose, ce n'est pas le ministre qui est touché, mais une fillette de 4 ans, Delphine Renard. Défigurée, elle perd un œil. La photo de son visage déchiqueté fait la une de Paris Match et suscite un immense émoi. Ce visage mutilé accuse l'OAS, écrit l'hebdomadaire. Le soir même, De Gaulle intervient à la télé.
Ces conspirateurs ont essayé, et sans doute essaieront encore, de créer des bouleversements à la faveur desquels ils imaginent se saisir du pouvoir. La nation, elle, méprise et condamne ces gens. Leurs complots et leurs attentats.
Mais pour la gauche, les mots ne suffisent plus. Dans la soirée, les délégués de la CGT, de la CFTC, du PC, du PSU et de l'UNEF se retrouvent à la Bourse du Travail, parce qu'il faut réagir. Alors, peu avant minuit, ils appellent à manifester le lendemain. Le mot d'ordre est clair. Contre le fascisme, tous à la Bastille à 18h30. Objectif, résister à l'OS, mais aussi pousser pour une solution négociée en Algérie. Ce 8 février, c'est un jeudi, un tract tiré dans la nuit à plusieurs milliers d'exemplaires et distribué à l'entrée des usines ou encore à la Sorbonne. Les quotidiens L'Humanité et Libération les relaient dans leurs éditions du jour. Mais il reste un obstacle, la préfecture. Depuis des mois, les manifestations sont interdites au nom de l'état d'urgence appliqué après le putsch des généraux en avril 61. Certaines sont tolérées, mais la plupart sont violemment réprimées. En milieu de journée, les organisateurs ont donc rendez-vous avec Maurice Papon. Le préfet a-t-il été tenté de leur donner son accord pour une fois? C'est ce qu'il affirmera dans ses mémoires, bien des années plus tard. Selon lui, De Gaulle s'y oppose. Pour le général, il s'agit d'une manifestation communiste, rien de moins. La CGT, le PC ne sont pas les seuls organisateurs, mais c'est ainsi qu'il voit les choses. Or, entre la peste OS et le choléra communiste, il ne veut ni choisir, ni transiger. À midi, Papon informe donc les représentants syndicaux que ce rassemblement est interdit. La rencontre tourne court, 4 à 5 minutes montre en main. Mais les organisateurs n'annulent pas leur appel à manifester. Non. Ils parient sur une forme de mansuétude. Après tout, il ne faut que s'opposer à l'OS, l'ennemi juré des gaullistes. Ils ne connaissent pas Papon. Le rendez-vous est donc fixé à 18h30. Et déjà, à 18h, les premiers manifestants affluent dans le calme, comme l'explique 20 ans plus tard un syndicaliste de l'UNEF.
Je me souviens que j'ai manifesté de Sully-Morlan jusqu'au boulevard Saint-Michel et qu'il n'y avait rien à signaler, c'est-à-dire qu'il y avait les forces de police, mais il n'y a eu aucun heurt sur le trajet de cette manifestation.
Il y a beaucoup de militants communistes, bien sûr, mais on croise aussi tout un tas de personnes qui ne sont pas encartées, des étudiants notamment et même des lycéens. Combien sont-ils? 10 000 selon les autorités, 60 000 selon l'humanité, ça recommence. Quand vous entendez des chiffres aussi différents, qui ne sont évidemment que de l'intox, aujourd'hui encore, dites-vous que la vérité se trouve probablement quelque part entre les deux. En l'occurrence, pour notre affaire, autour de 20 000. Peut-être plus. Mais une chose est certaine, il y a moins de monde que le 19 décembre. Certains ignorent que la manifestation est interdite, mais tous savent qu'ils prennent un risque. Les répressions du 17 octobre et du 19 décembre ont marqué les esprits. Et Papon est un dur, c'est bien connu. On néglige encore le rôle qu'il a joué sous Vichy entre 42 et 44 lorsqu'il officie en Gironde. Mais on sait que celui qui, quelques années plus tôt, a été en poste en Algérie, à Constantine, ne transige ni avec l'ordre, ni avec les ordres qu'il reçoit sa hiérarchie. C'est le type même de fonctionnaire qui obéit aux ordres, sans état d'âme, quels que soient les ordres, une aubaine pour tout gouvernement. De leur côté, pour éviter tout heurt, les organisateurs ont pris leurs précautions. 5 lieux de rassemblement sont prévus, tous en retrait de la place de la Bastille. Un point de rendez-vous est fixé, rue Saint-Ambroise. Les autres devant les stations de métro Le Drurolin, Sully-Morlan, Filly-du-Calvaire et Gare de Lyon. Il faut à tout prix éviter le face-à-face avec les forces de l'ordre. D'ailleurs, les consignes sont claires. Aucune arme, aucune pancarte, pas de cri hostile à la police. La manifestation sera courte, une heure tout au plus. Et à 19h30, on se disperse. Mais très vite, les slogans hostiles fusent. OAS assassin, OAS SS, ou encore salant au poteau. Et en face à Trépigne. Interrogé 20 ans après dans un documentaire de FR3, un gardien de la paix, syndiqué à la CFDT, se souvient.
On ne nous dit rien. On est en renfort, on est stationné. On a, c'est vrai, l'équipement qui était de l'époque, à savoir qu'on nous avait demandé de mettre notre aglant. Je me souviens très bien d'être intervenu et d'avoir mon casque au ceinturon, au cas où il aurait fallu le mettre, et le calot sur la tête. Et on nous a muni du bidule, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, cette grande matraque qui ressemble à un manche de pioche.
Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne, des matraqueurs assermentés qui fignolèrent leurs besognes.
Les policiers sont chauffés à blanc. Ils ont leur bidule, long d'un mètre et qui fait très mal. Si mal qu'il est devenu l'emblème des violences policières. Ils ont leur casque aussi. On leur a dit de le prendre en début d'après-midi. Le casque, oui, plutôt que le képi. Le message est clair. Tout de noir vêtu, casque noir, imperméable noir, gants noirs. Ils font peur. Surtout quand ils se mettent à taper sur le sol avec leurs longs bâtons. Ils sont près de 3000 ce soir-là. Il y a 13 compagnies d'intervention de la préfecture. Des unités toutes récentes, créées par Maurice Papon et qui comptent en leur sein des agents de police volontaires. Oui, vous avez bien entendu, volontaires. Autant dire que ceux-là ne sont pas des enfants de cœur. Et leur réputation n'est plus à faire. Ce qu'ils aiment, c'est cogner, surtout des civils sans armes. C'est moins risqué. Ils ne connaissent de la police que les charges, déplore un syndicaliste policier. Il y a aussi les gendarmes mobiles, bien sûr, et des CRS. Beaucoup ont fait la guerre d'Algérie. Ils détestent le FLN. Et pour eux, ces manifestants ne sont rien de moins que des complices du mouvement indépendantiste. Des ennemis, donc. Certains aussi sont des partisans de l'OS. Alors oui, ils veulent en découdre. Se faire un crâne de coco, comme ils disent. Car pour cette engeance, comme pour De Gaulle, cette manif est communiste. Point. Et dans la police parisienne, à cette époque, les communistes, si on peut leur taper dessus, on ne se gêne pas.
L'automne va mourir et l'on entend déjà le printemps refleurir aux branches des lilas. C'est une éternité quand on est amoureux. Tu verras mille étés éclabousser ses yeux. C'est aujourd'hui l'hiver, c'est encore le printemps. La nature est au vert lorsque l'on a 20 ans. Marie, je t'aime, tu es mon premier baptême. Marie, que l'amour me pardonne. On m'appelle à Charonne. On l'appelle à Charonne, et moi je reste là. Ni Dieu ni la Madone n'ont plus d'amoureux comme moi. Ça me brûle le cœur d'une douleur si tendre que pour moi c'est bonheur encore que de t'attendre. Je t'attends comme l'oiseau qui mourut d'attendre le printemps où il l'avait connu. Marie, oh Marie, je t'aime. Le baptême, Marie, que l'amour me pardonne. J'ai si peur à Charonne. il a peur à Charonne. Mon Dieu, prends-lui la main pour venir de Charonne, qu'il est long le chemin. Quelle est cette rumeur venue du fond des temps? J'ai si froid, j'ai si peur. Daniel, reviens donc. Il y a notre vie à nous qui tarde dans mon ventre. Les fleurs se mettent à genoux, les fleurs te disent rentre. Marie, Marie, je t'aime. Tu es mon dernier baptême. Marie, que l'amour me pardonne. Je t'attends à Charonne.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, les martyrs du métro Charonne.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Il est 19h en ce jeudi 8 février 1962. C'est l'hiver, la nuit est tombée. Les manifestants sont trimballés d'une rue à l'autre. Les cortèges se disloquent au gré des charges des policiers qui ont reçu l'ordre de renvoyer tout ce beau monde chez lui. Des heurts sont signalés, boulevard Beaumarchais. Une charge de police provoque la chute d'une vingtaine de manifestants en rue Saint-Gilles. La tension monte, et ça matraque dur, et à l'aveugle, les femmes, les vieux, les simples passants. Or, en face, on ne s'en laisse pas compter. On lance ce qu'on trouve, des briques, des bouteilles, des pavés. Mais dans l'ensemble, le mot d'ordre est respecté. Cette manifestation doit rester pacifique. Vers 19h15, les cortèges se rejoignent. Des milliers de manifestants se retrouvent boulevard Voltaire, tout près du métro Charonne. Juchés sur les épaules de leurs camarades, Claude Bourret de la CFTC et André Tollet de la CGT lisent dans un immense brouhaha le discours qui a été préparé. Bon, on ne les entend guère, puis ils appellent à la dispersion. Comme convenu, la manifestation ne doit pas aller au-delà de 19h30. Léo Figuère, un dirigeant du Parti communiste, se dirige alors vers les policiers.
Je m'avançais avec deux autres élus de Paris. Et j'agitais mes bras et je criais, la manifestation se disperse. N'intervenez pas, la manifestation se disperse. Croyant être protégé par mon insigne d'élu, etc. C'était assez naïf, n'est-ce pas, inconscient. Car la charge était déjà ordonnée. Et par conséquent, quand je suis arrivé à peu près à la hauteur de cette rue, la charge des policiers m'a rejoint. Je me suis aplati au sol, heureusement. Et ils sont passés sur moi en me piétinant et en me matraquant. J'avais de longues matraques. Je saignais de toutes parts.
C'est la 31e compagnie qui sonne la charge. Une centaine d'hommes dirigés par le commissaire André Isère. Elle est bientôt rejointe par la 32e et par la 61e. Des bêtes enragées, dirait une manifestante, qui frappent sur tout ce qui bouge, même les gens accroupis ou à terre, même les blessés, et qui visent la tête, surtout. Pas de pitié, le choc est d'une obscène brutalité. La foule, qui a commencé à se disperser, ne s'y attendait pas. Certains avaient les dos tournés. Les manifestants, comme cette dame, interrogée 20 ans plus tard sur France 3, sont comme effarés par une si soudaine explosion de violence.
Pour ma part, j'ai récupéré sur les pavés des godasses dans lesquelles je pouvais à peu près marcher. Cela dit, j'oublie de dire cette vision absolument dantesque du boulevard dans une brume étonnante avec ses gardes mobiles, la matraque à la main, essayant de casser les chaussures des femmes, les chaussures à talons. Ils essayaient de taper dessus pour les casser. C'était une vision folle. Ils étaient dans un état d'excitation que je ne concevais pas possible.
C'est la panique. On se protège comme on peut. On se réfugie dans un café ou dans le hall d'un immeuble. Les riverains, spectateurs médusés de cette orgie de coups, sont scandalisés. Alors ils viennent en aide aux blessés, les cachent quand des policiers leur courent après. Un Algérien, Mohamed Aïd Saada, est laissé pour mort dans la rue. Il restera dans le coma pendant 8 semaines. Sur le boulevard, certains s'engouffrent dans la station de métro la plus proche, la station Charonne. D'autres y sont tout simplement entraînés par la vague humaine qui tente d'échapper aux bidules. Poussés les uns sur les autres, jetés à terre, piétinés, les corps s'amoncellent sur les escaliers, le sang dégouline sur les 19 marches. « Ouvrez les grilles !» crie-t-il, croyant qu'elles sont fermées. Les taux se resserrent. En fait de refuge, cette station sera leur calvaire. Les manifestants sont entassés dans les escaliers, ils étouffent, mais ça n'empêche pas les policiers de continuer à les matraquer, à les pousser et à les asperger de gaz lacrymogène. Il en est même qui ont l'idée d'arracher les grilles métalliques de protection des arbres, 40 kilos chacune, et de les jeter sur les manifestants pris au piège. Les témoins, comme ce militant de la CFTC, retrouvé 20 ans plus tard, n'en croient pas leurs yeux.
Je me suis retrouvé dans la bouche de métro, pratiquement en bas des marches, allongé sur les premiers rangs qui étaient carrément au contact avec le sol. J'avais donc le torse qui sortait en gros, et j'ai, en tendant les bras pour appeler un peu enfin, les copains qui étaient en bas pour nous tirer et nous sortir de ce piège. De la tête, je pouvais facilement voir ce qui se passait au-dessus de moi. Et c'est là que j'ai vu les flics taper à coups de bidule donc, sur les manifestants qui étaient en haut, coincés, allongés sur le sol, mais en haut de la station, enfin des marches. Donc je les ai vus jeter des grilles d'arbres sur les manifestants.
Le martyr dure une grosse dizaine de minutes avant que les policiers ne refluent. Et enfin, les gens peuvent respirer. Certains remontent dans la rue, d'autres filent dans la bouche de métro. Mais quelques-uns ne se relèvent pas. Il y a des blessés, ils se comptent par dizaines. Il y a des morts aussi. 7 exactement. Un gamin de 15 ans, Daniel Ferry. 3 femmes, Fanny Deverpe, 30 ans, la mère de l'historien Alain Deverpe. Anne Godot, 24 ans, et Suzanne Martorel, 36 ans. Ainsi que 3 hommes, Jean-Pierre Bernard, 30 ans, Édouard Lemarchand, 40 ans, et Hippolyte Pina, 58 ans. Tous sont des militants communistes. 6 d'entre eux sont morts par compression dans une foule, dit-on officiellement. Plus loin, à l'extérieur, Raymond Wilgens, 44 ans, un syndicaliste de la CGT mal en point. Il a reçu plusieurs coups alors qu'il était réfugié dans un café. Et il succombe à ses blessures dans la nuit. Quelques semaines plus tard, le 20 avril, une 9e personne rejoint les martyrs de Charonne. Maurice Pochard, 48 ans. Il a reçu un coup de bidule à la tête, un coup mortel. C'est la police qui a tué ces gens. Mais dès le lendemain, c'est une toute autre histoire qu'imposent les autorités. Il faut renverser les rôles. Si ces malheureux sont morts, c'est de leur faute. Ce sont eux qui ont attaqué les forces de l'ordre, eux qui ont provoqué le désordre. Écoutez le ministre de l'Intérieur, Roger Frey, dans le JT du 9 février.
Des groupes organisés, de véritables émeutiers, armés de manches de pioche, de boulons, de morceaux de grille, de pavés, d'outils divers, ont attaqué le service d'ordre, en particulier boulevard Beaumarchais, rue de Charonne et rue de Turenne. Les désordres ont duré près de 3 heures, 83 arrestations ont été opérées.
Frère rappelle que des dizaines de policiers ont été blessés. C'est bien la preuve que les manifestants étaient violents. Il omet simplement de dire que pour la plupart des policiers, il s'agit de blessures bénignes et que seule une dizaine d'entre eux ont été brièvement hospitalisés. Au même moment, le directeur de la police municipale, Maurice Le Guay, va plus loin sur les ondes de la RTF. Les manifestants, soutient-il, se sont en quelque sorte entretués.
À la suite d'une charge de police, il est possible qu'une foule, enfin un groupe important de manifestants ait cherché à trouver refuge dans la station et qu'à ce moment-là, la bousculade soit telle que les gens soient piétinés sans aucune pitié, parce que c'est vraisemblablement ce qui s'est produit. La descente des escaliers en trompe, vous savez, à ce moment-là, le plus faible n'est pas épargné. Celui qui perd pied, il est à peu près fichu. Mais l'action de la police n'y est pour rien, sinon dans le fait qui est son devoir d'avoir cherché à dégager la voie publique.
Dans la revue L'Esprit Public, on peut lire quelques jours plus tard que les communistes auront été, je cite, « leurs propres bourreaux ». Plusieurs journaux reprennent la thèse des grilles du métro fermées sur lesquelles se seraient écrasés les manifestants. Une version avancée par le Premier ministre, Michel Debray, par Maurice Papon également. C'est bien pratique. Les coupables, ce sont les grilles, pas les policiers. Sauf que c'est faux. Oui, plusieurs stations ont été fermées sur ordre de la police à 17h30, le 8 février, mais pas Charonne. Cette station-là était bien ouverte à 19h30. Bientôt, une autre thèse est mise en avant par Roger Frey. Celle de la provocation de l'OS. Des documents retrouvés lors d'une saisie le prouvent, affirme le ministre. Des membres d'un commando déguisés en gardiens de la paix ont infiltré les rangs de la police et ce sont eux qui ont provoqué le chaos. Une diversion qui ne convainc personne. Mais qu'à cela ne tienne, la propagande est en marche. Qu'on se le dise, le pouvoir n'a rien à se reprocher. D'ailleurs, personne ne démissionne. Personne n'est révoqué, ni Frey, ni Papon. Il n'y a guère que le commissaire Isère qui est muté. Infusible. En tout cas, les consignes qui lui ont été données étaient claires. Il devait, je cite, « disperser énergiquement les manifestants ». Le 12 février, Michel Debré vient apporter son soutien à la police parisienne. Il dit même son admiration. Pourtant, l'émoi dans le pays est considérable. Dès le lendemain du massacre, le 9 février, une grève est décrétée. Les jours suivants, partout en France, des gens descendent dans la rue, à Paris bien sûr, mais aussi au Mans, à Metz, à Pau ou encore à Quimper. Et le 13 février, le jour des obsèques, ce sont des centaines de milliers de personnes qui, sous le crachin parisien, tiens donc, rendent un dernier hommage aux martyrs de Charonne. On n'avait pas vu ça depuis février 1934.
À ces 8 victimes, Paris a fait les funérailles les plus éloquentes. De la Bourse du Travail, où les cercueils avaient été exposés et avaient reçu un premier hommage, jusqu'au cimetière du Père Lachaise, une foule immense, dont le nombre peut s'évaluer à plusieurs centaines de milliers de personnes, a suivi le cortège. Cortège silencieux, seulement ponctué des accents d'une marche funèbre, et dont nul cri, nul incident n'a troublé le déroulement. Des monceaux de fleurs, gerbes coûteuses ou humbles bouquets, ont donné le ton de la piété populaire. Ce cortège funèbre, qu'on l'évalue à 150 000 ou à 1 million de présences, avait la valeur d'une affirmation solennelle. Il ne faut plus que la paix intérieure soit troublée.
La mise en scène est léchée, rien n'est laissé au hasard. L'historien Emmanuel Blanchard parle d'une panthéonisation ouvrière. Le fronton de la Bourse du Travail est barré d'un immense crêpe. Tous les cercueils sont drapés de noir, à l'exception de celui du jeune Daniel Ferry, orné d'un voile blanc. Le cortège s'ébranle aux notes de la marche funèbre de Chopin. Et cette fois, la manifestation n'est pas interdite. Les morts sont autorisés à défiler, ironise Libération. Au Père Lachaise, la tombe des victimes est placée entre celle du comité central du Parti communiste et celle qui rend hommage aux volontaires des brigades internationales qui se sont battues en Espagne en 1936. Il faut faire des bords de Charonne des martyrs de la cause. Camarades, votre sacrifice ne sera pas vain, clame Robert Duvivier au nom de la CFTC. Un mouvement populaire est né, se réjouit témoignage chrétien. Mais pour le pouvoir, il faut cacher la vérité, effacer les traces, étouffer l'affaire. Le soir même, quelques heures après le massacre, l'enregistrement des liaisons radio pendant la manifestation disparaît. Les interventions de Roger Frey au Conseil des ministres sont expurgées. Quant à l'instruction judiciaire, ouverte dans la foulée, elle ne donne rien, bien sûr. L'enquête préliminaire a établi les faits et elle est particulièrement critique à l'encontre de la police. Mais les magistrats renâclent. Aucune confrontation n'est organisée entre les témoins et les policiers. On connaît pourtant les responsables. 20 ans après, sur FR3, Jean Chouanac, un policier syndicaliste, s'en offusque.
Il n'y a pas eu un procureur de la République, d'ailleurs, il n'y a pas eu un magistrat qui ait de sa propre autorité demandé ou pour faire une enquête pour savoir dans quelles conditions ça s'était fait. Et puis les fonctionnaires de police qui maintenant sont amnistiés, je ne citerai pas de nom, avaient été, on peut dire, les acteurs conscients de cette charge que rien ne justifiait, du point de vue de, si ce n'est de l'habitude qu'on en avait prise, ont été tous promus à des grades supérieurs, voire même décorés par la suite.
Le 1er octobre 1966, plus de 4 ans après les faits et 3 mois après le vote d'une loi d'amnistie, un non-lieu est prononcé, circulé. D'ailleurs, au fil des ans, la censure aidant, les martyrs de Charonne tombent dans l'oubli. Les morts sont devenus petits, si petits qu'on ne s'en souvient pas, écrit Alain Verpe. Les commémorations désormais se font en comité restreint, loin des micros et des caméras. Et qui connaît cette histoire chez les plus jeunes? Il n'y a guère que les artistes révoltés pour s'en souvenir. En 75, la France découvre ainsi un jeune chanteur aux cheveux blonds et aux rimes acides, Renaud, avec un morceau qui deviendra culte, Hexagone. Ils sont pas lourds, en février chantent-ils à ce souvenir de Charonne, des matraqueurs assermentés qui fignolèrent leur besogne. Il faut attendre l'arrivée au pouvoir des socialistes en 81 pour que le massacre de Charonne revienne sur le devant de la scène. François Mitterrand a bien compris l'intérêt qu'il a à rappeler les crimes du régime gaulliste. Alors, le 8 février 82, le PS met les petits plats dans les grands.
Et c'est dans le calme et le recueillement, mais aussi en ordre dispersé, que les syndicats et les partis de gauche ont célébré aujourd'hui ce sinistre anniversaire. Des gerbes de fleurs ce matin au cimetière du Père-Lachaise, sur les tombes des victimes. Ce soir, un rassemblement de la CFDT à la Bourse du Travail. Cet après-midi, plusieurs manifestations au métro Charonne, sur les lieux mêmes du drame. D'abord la CGT à 16h30, puis en ce moment même le Parti Socialiste. Au micro de notre reporter Philippe Legray, le premier secrétaire du PS, Lionel Jospin.
Je crois que nous avons voulu dire, 20 ans après, que nous n'avions pas oublié les hommes et les femmes qui avaient été victimes de la répression, de la violence et de l'intolérance.
La même année, FR3 diffuse un documentaire accablant, le premier du genre. Son titre, Charonne 62, 9 morts sur ordonnance. Mais à nouveau, l'affaire retombe dans l'oubli. On en reparle de temps en temps. Bien sûr, en 2007, par exemple, lorsque le maire de Paris, Bertrand Delanoë, rebaptise le carrefour Charonne-Voltaire en place du 8 février 1962. Ou en 2022, à l'occasion du 60e anniversaire, quand, pour la première fois, un président de la République, Emmanuel Macron en l'occurrence, rend hommage aux victimes et à leurs familles. Mais avec une déclaration minimaliste, elle contient trois phrases qui ne parlent que d'une tragédie, en aucun cas d'un massacre.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le drame du métro Charonne en février 1962. Notre invité, Alain Russiaux. Bonjour.
Bonjour.
Historien spécialiste de la guerre d'Indochine, mais aussi de la guerre d'Algérie, vous avez notamment publié à la découverte Nostalgérie, l'interminable histoire de l'OS, et plus récemment, La première guerre d'Algérie, une histoire de conquête et de résistance, et vous publiez là, en ce moment même, La première guerre d'Algérie, une histoire de conquête et de résistance, 1830-1852. Il nous faut évoquer le travail d'un autre historien. Il y a un autre historien, parce que vous êtes vous-même historien, Alain Deverpe, qui est décédé en 2015, qui a publié en 2006 chez Gallimard une somme remarquable sur Charonne. C'est vraiment le livre de référence sur cet épisode, intitulé « Charonne, 8 février 1962, anthropologie historique d'un massacre d'État ». Est-ce que vous pouvez nous parler de cette enquête extrêmement fouillée, mais aussi de cet homme qui avait, je crois, un lien très particulier avec l'événement?
Oui, j'avoue que lorsque vous m'avez gentiment invité à présenter cette somme sur Charonne, j'étais un petit peu complexé de me dire que finalement, l'homme qui aurait dû être à ma place, c'était évidemment Alain Deverpe. D'abord pour son travail, commençons par son travail d'historien, et sa maman est morte le 8 février sur les marches de Charonne.
Est-ce que vous avez rencontré la petite-fille à l'époque qui a eu un œil crevé?
Delphine.
Ouais.
Bon, alors, c'est le deuxième salut très très amical qu'il se trouve qu'avec Delphine de Renard, nous sommes restés en relation épistolaire et on se croise à quelques occasions, et elle m'a dit qu'elle était à l'écoute aujourd'hui, donc je la salue avec beaucoup d'affection et d'émotion. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que l'existence même de l'OAS a été un véritable chancre sur la fin de la guerre d'Algérie. Je pense que l'OAS porte une lourde responsabilité, vous avez eu la gentillesse de citer mon livre Nostalgérie, l'OAS porte une lourde responsabilité sur la fin de la guerre d'Algérie. Elle a été créée relativement tard, créé au printemps 1961 à Madrid, en terre fasciste. Ouais. Je signale au passage que le général, celui que je ne veux plus appeler le général, que Raoul Salan en était effectivement le chef, mais qu'il avait autour de lui toute une garde rapprochée de fascistes ou de néo-fascistes, et qu'il a eu à Madrid la visite de Jean-Marie Le Pen,
ouais,
qui n'a jamais été à l'OAS, mais qui a quand même été salué au moment de la création de l'OAS, Salan.
Alors, pour le pouvoir, il y a deux adversaires potentiels. Il y a l'OS, évidemment, puis il y a les communistes aussi. Et donc, il y a la répression et les 9 morts. Qui est responsable de cette répression? Est-ce qu'il s'agit d'abord du général de Gaulle, de Roger Frey, le ministre de l'Intérieur, ou de Maurice Papon, le préfet de police? À mon avis, c'est les trois.
Eh bien, bon, en régime démocratique, les plus concernés, les plus responsables, sont par définition ceux qui portent justement la responsabilité de majeur. Donc, je dirais, en premier, le général de Gaulle. Mmh. Le général de Gaulle qui, effectivement, ne s'occupait pas de l'intendance, ne voulait pas mettre les mains dans le cambouis, en quelque sorte, ne voulait pas mettre les mains dans le moteur, mais qui, malgré tout, supervisait. Qui, malgré tout, a considéré, d'ailleurs, vous avez cité à juste titre le témoignage de Papon lui-même, qui considérait que toutes les protestations contre la guerre d'Algérie étaient des protestations communistes. Ce qui n'était pas vrai. Ce qui n'était pas vrai. L'appel à la manifestation de Charonne du 8 février 1962, c'était un appel syndical, d'abord. Et parmi les partis politiques, il y a le Parti communiste, effectivement, qui fournit les gros bataillons, et le PSU, qui est un jeune parti à l'époque, qui est très actif contre la guerre d'Algérie. Et puis après, effectivement, il y a Michel Debré. Alors Michel Debré, on a le.
Alors lui, il est Premier ministre. Hein.
Il est Premier ministre.
Frey est ministre de l'Intérieur. D'accord.
Exactement, exactement. Mais je vais lui régler son compte tout de suite après. Michel Debré, donc, on a le témoignage de Constantin Melnik, qui était dans sa garde rapprochée. Et je cite ce que Debré a dit à Melnik pour transmettre ensuite à la police et donc à Papon. Continuez à interdire toute manifestation, s'ils se produisent quand même, si elles se produisent quand même, cognez. Cogner contre l'extrême droite, c'est ces groupes activistes, donc contre l'AS. Cogner contre l'extrême gauche, son seul but, mettre le général en difficulté en accroissant le volume des troubles.
En tout cas, il y a cogner. Voilà.
Cogner, voilà. Bon. Le mot cogner figure.
Ok, passons à Roger Frey. Je vous bouscule un peu parce qu'on n'a pas énormément de temps.
Passons à Roger Frey. Alors, Roger Frey est ministre de l'Intérieur depuis octobre 61. Donc, il est déjà en responsabilité Place Beauvau au moment des massacres du 17 octobre. Il est toujours Place Beauvau, évidemment, en 1962, au moment de la manif de Charonne. Et puis, il va rester en poste jusqu'en 1967, Place Beauvau. Donc, c'est également l'homme qui a chapeauté, ou en tout cas couvert, l'affaire Ben Barka.
Pour le général de Gaulle, c'est une manifestation de communistes, ok, il nous reste Maurice Papon. Alors je rappelle que les enfants d'Isieux, c'est Maurice Papon, hein,
bien sûr.
Qu'il est l'homme qui obéit aux ordres, quels que soient les ordres, sans état d'âme. Bon, sa responsabilité, là, il dit, c'est le général de Gaulle qui nous a dit, il faut cogner. Bon.
Moi, je dirais que Maurice Papon a obéi aux ordres, comme un haut fonctionnaire qu'il était, mais il a obéi avec jubilation. Il avait obéi avec la même détermination, le même professionnalisme avec les guillemets nécessaires qu'il avait eu lorsqu'il était à la préfecture de Bordeaux. Et ensuite, qu'il a appliqué avec une violence inimaginable les consignes en octobre 61. Je vous rappelle qu'il avait dit aux policiers que pour un mort policier, il fallait 10 victimes algériennes.
Ça rappelle donc, des mauvais souvenirs, ça.
Ça rappelle des très mauvais souvenirs et c'est malheureusement parfois un petit peu toujours dans l'air du temps. Je dois dire vraiment que la responsabilité du pouvoir, ce qui justifie le titre et la thématique d'Alain de Verbe qui est partagée aujourd'hui par la quasi-totalité des historiens, à savoir qu'il s'est agi d'un crime d'État. Une dernière chose, si vous permettez, je reviens à l'OAS. Les Nuits Bleues, j'étais jeune à l'époque, j'habitais Paris 19e arrondissement, et j'ai des souvenirs très nets des plasticages. Le mois de janvier 62, qui a précédé Charonne, il y a eu 95 attentats. Mmh. Et la nuit du 7 février, vous avez cité à juste titre les professeurs de droit, Roger Pinto, professeur Védel, mais également beaucoup de locaux communistes, le locaux de la jeunesse communiste rue Humblot, par exemple, mais également l'appartement de Serge Bromberger, qui était journaliste au Figaro. Ouais. Vous voyez comme quoi, pour l'OAS, la gauche commençait dès les colonnes du Figaro.
France Inter. Affaires sensibles.
Alors, ici, j'ai lu, comme vous, j'imagine, les mémoires du général de Gaulle. Je n'ai pas souvenir d'une évocation de sa part du 8 février 1962.
Eh bien, ce n'est pas une faille dans votre mémoire. J'ai pris la peine de vérifier avant de venir à cette émission et de regarder et l'index et les colonnes consacrées à la guerre d'Algérie. Il n'y a pas un mot. Il n'y a pas un mot sur Charonne. Bah, pour de Gaulle, en réalité, de Gaulle voyait les choses de haut, dans tous les sens du terme. Mmh. Et de Gaulle, évidemment, ne s'occupait pas de l'intendance, ne voulait pas mettre les mains dans le cambouis. Mais cependant, il avait, je dirais, un raisonnement politique qui peut paraître aujourd'hui quand même assez mesquin, de dire qu'il voulait accaparer la possibilité de mettre fin à la guerre d'Algérie. Et donc, il était hors de question que le mouvement populaire vienne, ne serait-ce que le soutenir, et en tout cas venir en quelque sorte en concurrence. Et pour lui, l'interdiction de la manifestation qu'il a qualifiée de communiste était naturelle. Je cite le témoignage de Robert Buron. Robert Buron, qui était son ministre, à un certain moment, dit « il faudrait quand même peut-être déposer Papon ». Et de Gaulle répond, donc citation, « la manifestation était interdite, la préfecture de police a reçu mission de s'y opposer, elle a fait ce qu'elle devait faire ». Donc c'est la responsabilité au moins morale du général de Gaulle. Ensuite, effectivement, il a laissé les subordonnés, c'est-à-dire ses ministres et le sinistre préfet de police Papon, passer à la tâche pratique, en quelque sorte.
Ouais. Alors, je vais vous poser la dernière question, car c'est une question qui interpelle. J'ai l'impression, alors vous me dites si c'est qu'une impression, mais que l'on a plus retenu le massacre du 17 octobre 61 que le drame du 8 février 62. Est-ce que je me trompe ?
Vous ne vous trompez pas aujourd'hui, mais vous vous trompez pour le passé. C'est-à-dire qu'il y a eu, une sorte de vase communicant tragique, d'ailleurs. Tragique entre l'oubli de la manifestation du 17 octobre 61 et des massacres du 17 octobre 61. On cite toujours le fait que, par exemple, qu'il y a eu 4 discours le jour des obsèques des martyrs de Charonne, que seul le représentant de la CFTC a cité le 17 octobre 61. Donc il y a eu cette sorte d'oubli qui s'explique par ce que j'ai appelé tout à l'heure la non-réceptivité. Lisez par exemple le magnifique roman de Clairette Cherelli et Lise de la Vraie Vie, on voit que dans la population française, l'Algérien, c'était d'abord celui qui mettait en péril le cousin ou le frère ou le fiancé qui était en Algérie, et c'était celui qui, en France, était facteur d'insécurité, facteur de malaise, etc.
Donc, oui, ça ne s'est pas arrangé, d'ailleurs, cette impression-là.
Pas arrangé. Mais donc, moi, j'emploie toujours cette expression, l'internationalisme est une greffe qui est en état de perpétuel rejet. Et oui. Donc, effectivement, il y a eu une très faible réaction. Il y a eu des manifestations. Octobre 61, je précise quand même, manifestation du PSU Place Clichy et quelques manifestations très très maigrelettes dans la banlieue communiste, la ceinture rouge de l'époque que je cite dans mon autre livre. Mais bon, progressivement, il y a eu donc cette montée en puissance justifiée et nécessaire de la mémoire des martyrs du 17 octobre 61 et un effacement qui est dû également au fait que le Parti communiste aujourd'hui n'a plus évidemment la même puissance, le même rayonnement qu'il avait, y compris le rayonnement intellectuel d'ailleurs. Et donc les martyrs du 8 février 62 sont apparus un petit peu comme les martyrs communistes qu'il fallait toujours respecter, mais qui appartenaient seulement à la famille communiste, ce qui est évidemment une hérésie.
Bien sûr, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Alain Ruscio. Au revoir.
À bientôt.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les martyrs du métro Charonne. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Loïs Moreau.